Il est 19h sur le 101.5 de Radio G et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. C'est beau micro, on va passer une heure ensemble. Attention, d'abord le générique, si j'y arrive. C'est parti.
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Kaizoku-oni, ore wa naru.
Batman. Oh, la petite schtoumpf.
Trompez vite. Venez par chez toi ici.
Juste en, les touristes de bord.
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Bienvenue dans la case de Seb, l'émission qui, par le truchement des ondes radiophoniques, va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images de la BD franco-belge, du manga et du comics. Je l'ai déjà dit, Seb au micro, on va passer une heure ensemble, mais je ne suis pas tout seul ce soir, je suis en compagnie de Florence. Tu vas bien Florence ?
Ça va bien, merci.
Je suis aussi en compagnie de Bruno, ça va Bruno ?
Ça va, il fait chaud, ouais. c'est un scoop, hein. je voulais absolument faire un scoop et là...
Ceux qui ne connaissent pas le studio, c'est une petite étuve, on pourrait y faire sécher du linge sans problème. Et j'ai le grand plaisir de recevoir Jean-Mathias Xavier. Ça va Jean-Mathias ?
Bonsoir, oui, je vais super bien. Je suis très content d'être ici.
On est très content de t'accueillir aussi. Dans quelques instants, on parlera de la sortie de ton nouvel album Space Kittens tome 3. C'est ça, je me trompe pas, hein ?
Tout à fait.
Parfait. En attendant, on va commencer avec Florence. Alors, je fais le récapitule rapidement. Si vous souhaitez nous rejoindre directement sur le YouTube, vous pouvez nous trouver en live avec une caméra HS, mais c'est pas grave. Vous ne verrez que moi, pas mes petits camarades, sauf si j'arrive à réparer le truc en ligne. Si jamais vous souhaitez discuter avec nous, vous pouvez le faire directement sur le site de Radio G, www.radio-g.fr, onglet chat. Et comme ça, vous pourrez poser directement vos questions à JMX qu'on transmettra par l'intermédiaire de nos petites voix. Voilà. Alors, Florence, qu'est-ce que tu as de beau à nous raconter aujourd'hui ?
Eh bien, je vais vous parler de plusieurs festivals donc qui auront lieu. On va commencer par celui de la commune du Buisson de Cadouin en Dordogne. Donc, ça sera du 28 au 28 juin prochain. Et donc le nom du festival c'est BD en Bastide avec une programmation sur le thème de la préhistoire. Vous pourrez ainsi assister à plusieurs activités, ciné-débat sur l'art pariétal, table ronde, conférence pour découvrir la période néolithique et Ötzi. Ötzi c'est un homme préhistorique découvert dans les Alpes en 1991 et c'est le personnage principal de la BD qui porte le même nom, réalisée par Éric Colochot. L'entrée sera gratuite.
C'est cool ça.
Les 27 et 28 juin se déroulera la 19e édition du festival Bulle de Burle à Sainte-Enimie dans les gorges du Tarn. Le président d'honneur de cette édition sera l'auteur et illustrateur Olivier Roman. Bulle de Burle, c'est un festival à taille humaine consacré à la BD, au manga et à l'illustration. Il met vraiment l'accent sur les rencontres entre les lecteurs et les artistes grâce aux séances de dédicaces. Une librairie sera présente avec un large choix d'albums. L'entrée sera gratuite également. Toujours à la même date, les 27 et 28 juin, c'est la commune de Boulay-Moselle, en Moselle, place de la République, qui accueillera son festival Boulay-Bouquin. L'entrée est gratuite. 35 artistes sont attendus, dont Jenny, illustratrice, qui sera la marraine de l'événement. Jenny, elle a collaboré sur des BD célèbres comme Les Légendaires, Origine, ou encore La Rose Écarlate. Cette année encore, il y aura une riche programmation avec des spectacles de rue, des concerts, des ateliers de création littéraire et graphique. Toujours les 27 et 28 juin, rendez-vous également à Farins, dans l'Ain, au château, du Boucher, où se tiendra le festival Bédémiam. Festival où vous pourrez aller à la rencontre des 20 auteurs et autrices et participer aux activités avec un verre à la main et une assiette de nourriture. puisque oui, le festival porte bien son nom. On y va aussi pour boire et se restaurer. Il y aura peut-être même autant de stands de nourriture et de boissons que de stands de BD. Concernant les animations, séances de dédicaces et moments d'échange évidemment, de la musique et des rencontres avec des viticulteurs pour ceux qui aiment la BD et le vin également. L'entrée du festival est gratuite aussi. C'est tout pour l'agenda du jour.
Eh ben c'est cool ça. J'ai réussi à bidouiller la caméra pendant que tu discutais. Là, si vous êtes sur YouTube, vous êtes en sub-vision. C'est-à-dire que vous voyez exactement ce que je vois depuis mon micro. C'est pas forcément le meilleur axe, hein, mais on va se contenter de ça jusqu'à ce que je trouve une vraie solution. Moi, je vais commencer avec un petit manga tout simple que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Je vais vous le mettre ici. Ça s'appelle Light Drag Action. C'est publié chez Akata. C'est de Cam Yug et Narumi Shigematsu. Et c'est un manga qui parle du milieu du drag queen, chose que j'avais jamais vue avant. Petite particularité, c'est également un manga de création française. C'est une création des éditions Akata. Et Cam Yug, c'est un drag qui va raconter, par l'intermédiaire de ce manga, son histoire plus ou moins romancée. Et on suit l'histoire d'un petit garçon qui depuis toujours en fait a rêvé d'être une princesse et qui n'ose pas trop l'avouer. Alors en plus il est gay, donc il a pas fait son coming out, il a du mal en fait à assumer le côté drag qui lui plaît énormément. Et lorsque dans sa petite ville débarque un quatuor de drag qui a été popularisé par la télé, il décide d'y aller et en compagnie de deux de ses amis, il va décider d'y aller costumé en drag avec le maquillage, le costume qu'il aura fait bien entendu de ses mains. C'est un grand pas en avant pour lui parce que il va mettre des personnes dans la confidence et il n'a aucune idée des réactions. Et pendant ce temps-là, il y a un jeune garçon qui est un beau ténébreux qui arrive dans son lycée et il n'ose pas lui dire qu'il le kiffe quand même pas mal et puis il a peur que ce jeune garçon, quand il découvre que notre héros aime le milieu du drag, se mette à le juger très fortement. Donc c'est un manga qui est vraiment sympa parce que c'est un univers qu'on connaît assez peu, c'est fait de manière très cool, très simple. Il y a plein de côtés très girly avec le côté très shoujo. Alors, c'est là où Fabien aurait été intéressant, parce qu'il aurait pu nous raconter un petit peu ces codes du shoujo avec les paillettes, les choses qu'on retrouve en fait de manière très exagérée dans le milieu du drag. Et puis, il y a de la romance, mais c'est tout mignon, c'est tout frais, il n'y a pas de préjugés, il y a plein de trucs qui sont bien faits. Et en vrai, c'est un pur moment sympa et qui donne envie d'aller découvrir un peu plus ce milieu du drag parce que ça a l'air d'être un milieu non seulement de l'exubérance et de l'excès, mais aussi un milieu qui est quand même vachement touchant et en tout cas qui en a l'air depuis le point de vue de cet album-là, Light Drag Action, publié aux éditions Akata de Cam Yug et Narumi Shigematsu. Mes chers amis, vous connaissiez un peu le milieu du drag queen ou pas? Un drag queen, drag king, tout, pas du tout.
Non, moi je veux pas révéler ma vie privée.
On ne juge pas, on n'est pas dans le jugement ici, aucunement. Mais ouais, petite pépite, et je me dis que si j'avais eu le temps, malheureusement les émissions sont déjà bookées, une petite interview sur cette création manga française aurait pu être intéressante. N'hésitez pas à aller voir chez Akata, ils ont plusieurs albums qui sont des albums de création qui sont ma foi tous assez sympas parce que il y a cette petite touche du côté Akata, ils ont toute la collection What the Fuck avec des albums qui sont complètement barrés, qui sont des créations japonaises à la base. Et les créations françaises en fait, elles vont toucher des sujets qui sont pas forcément évidents, pas forcément des sujets qu'on a l'habitude d'aborder, mais qui sont toujours traités avec bienveillance, avec aplomb et puis avec beaucoup de tact et de je sais plus comment on dit quand on explique bien gentiment et que ça se passe bien. De bienveillance, ouais.
On peut dire ça, ouais.
On peut dire ça. Faut que tu parles juste un tout petit peu plus près de ton micro.
Oui, on peut dire
voilà,
ça,
on
oui.
t'entendra beaucoup
voilà,
mieux, Jimmy. Hop. Eh ben parfait. Je propose qu'on se fasse une petite pause musicale. Promis, je vais vous faire un truc. C'est la seule fois que je le ferai et je le ferai pas d'autres fois. Je vais faire une pause musicale en rapport avec le football. Voilà.
Pourquoi pas.
Pourquoi pas.
Allons-y.
Je vais vous faire écouter Killa, qui est un morceau de la chanteuse Ado et qui est l'hymne de la Coupe du Monde de l'équipe japonaise. Voilà.
Qu'on fait un très bon match hier contre,
c'est
contre
vrai
les Pays-Bas. Oui, oui.
Ah, je suis très peu, mais j'ai appris que le Curacao, qui n'est pas qu'un cocktail, a aussi fait un match qui était plutôt bon.
Bah oui, avant de s'écrouler, mais non, mais hier, franchement, les Japonais, enfin, ça fait, c'est pas nouveau. On sait qu'ils jouent bien, mais là, ils ont, enfin, ils auraient pu, auraient même pu gagner. Donc, non, c'était un bon match.
Eh ben, écoute, on leur fait un petit coucou avec Killa de la chanteuse Ado.
Let's go.
Ado avec Kira sur le 101.5 de Radio G. Je ne m'entendais plus dans mon casque. Ah là là, j'ai failli me faire peur tout seul. Bref. Voilà, vous vivez toute ma vie. Et je fais n'importe quoi. Pff, décidément. Les joies du direct. Voilà. On est toujours en direct de la case de Seb. On est toujours en compagnie de JMX. Et on va parler de ton album Space Kittens, tome 3. Avant d'attaquer l'album, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu?
Donc, je suis Jean-Mathias Xavier, je suis illustrateur
bien dans ton
et
micro.
Auteur voilà. Donc, d'une bande dessinée que j'ai créée qui s'appelle Les Space Kittens. Ça fait très longtemps que je suis dans le milieu du dessin, puisque je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit avec mes parents, qui eux-mêmes travaillaient dans le dessin animé. Alors, c'est pas pour autant en fait que ça a été facile et que j'ai eu des cours de dessin, mais en fait, mes parents m'ont plutôt foutu la paix. Et ils ont pas insisté, mais bon, j'avais envie de dessiner, parce que voilà, c'était comme ça. Et puis, à 18-19 ans, j'ai commencé à travailler dans le dessin animé et j'ai fait à peu près 15 ans de carrière dans la production de dessins animés en travaillant sur Blake et Mortimer, Bob Moran, qui sont encore diffusés aujourd'hui sur Amazon.
Et oui, carrément.
Ce qui est assez marrant. Oui, oui, oui.
Tu sais, je savais pas, tu vois.
Tu vois, on peut tomber en fait sur ces dessins animés-là. Et puis, je faisais les décors. Donc, j'ai fait du storyboard, j'ai fait de la direction artistique sur plein d'autres dessins animés. Enfin, voilà. Et un jour, j'en ai eu ras-le-bol, en fait, du dessin animé, parce que je m'y retrouvais plus au niveau de ma propre illustration, de mes propres dessins, de mes aspirations artistiques. Et j'ai quitté tout ça. Et, tout en travaillant, en fait, de près ou de loin avec la production, puisque je travaillais chez Kazé Animation, à faire des bandes annonces, j'ai commencé à travailler sur des romans illustrés, dont Louis le Galou, et là, dernièrement, par exemple, Le Collège Maléfique, qui est édité chez Flammarion, aux éditions avec Cassandra O'Donnell. Et puis, il y a 4 ans, à peu près, je me suis dit, ce serait peut-être temps quand même que je fasse ma bande dessinée, puisqu'elle est en gestation depuis un bon moment. Voilà. Et donc, ça faisait des années que j'avais déjà le projet, et j'arrivais pas à trouver vraiment le fil conducteur, la manière, en fait, de la mettre en scène et tout et tout. Et puis, un ami, qui s'appelle Xavier Hamet, encore un Xavier. Donc, il m'a dit, mais moi, si tu veux, je te monte le financement participatif. On était en 2021. Et il me dit, je te fais le financement participatif. Et hop, c'est parti. Et puis, il m'a fait tout, la nomenclature, en fait, du financement participatif. Il me dit, tu t'occupes seulement des dessins, tu fais tout, machin, nanana. Donc, on a monté le truc. Il m'a sorti le budget, en fait, qui était de 18 000 euros, quand même, pour aller chercher, en fait, et réaliser la bande dessinée. J'ai dit, t'es un peu foufou, hein, quand même, hein, parce que 18 000 euros, faut quand même. Elle me fait non, t'inquiète, j'ai tout calculé, machin et tout. Alors il est très très fort. Hein. Donc du coup, tac, on commence la campagne et au bout de 5 semaines, on avait 21 000 euros. On a eu 22 130 euros.
Ah oui, gros succès quoi.
Ouais, carrément. Et puis derrière, la BD est sortie un an plus tard, donc sur la fin de l'année 2021. Et dès que j'ai mis en exploitation, alors j'ai reçu les BD en 2021, j'ai fait quelques expéditions en fait à tous les contributeurs en fait qui avaient déjà préacheté la bande dessinée. Et puis j'ai commencé en fait à faire la tournée, un petit peu comme une star, on part en fait et on sort le CD, puis après on part en tournée. Donc ça a été le cas. Donc j'ai fait plein de festivals et ça a pris. Et un an plus tard, je sortais le 2. Et puis entre le 2 et le 3, il s'est écoulé à peu presque 2 ans. Parce que j'ai eu une grave maladie et que je m'en suis rétabli et après être rétabli, je me suis dit l'année dernière, je me suis dit allez, on y va,
on y retourne.
Bon, c'était pas si facile que ça parce que j'étais pas si bien rétabli que ça, mais ça a pris un peu de temps. Mais aujourd'hui, un an et demi plus tard, le 3 sort et on est tous super contents quoi. Moi, même le premier, je veux dire, moi je suis le premier content parce que ça veut dire le bébé il est sorti, hein, c'est le troisième, voilà. Et puis derrière, en fait, les contributeurs, il y a certaines personnes en fait qui ont commencé à recevoir les livres et d'autres en fait vont pas tarder. Donc voilà, et les impressions en fait des gens, des bêta lecteurs, on va dire ça comme ça, est très positive. Tout le monde trouve en fait que le troisième tome qui clôture en fait ce premier arc est à la hauteur en fait des deux autres. Donc ça c'est cool. Voilà, je suis super content pour ça quoi.
C'est parfait. Et qu'est-ce que je peux avoir comme question à te poser après une présentation aussi grande?
Pardon.
Déjà la première, quand même, parce que j'en ai. Est-ce que t'avais pas de fanbase avant de te lancer sur le premier tome? Est-ce que t'as été surpris d'avoir un accueil, une réception, déjà juste un financement qui marche, quoi?
Alors, non, j'avais pas de fanbase en fait, si tu veux, sur la bande dessinée, mais j'en avais une en fait qui existait grâce à l'illustration. Ça faisait un moment en fait que j'étais souvent au salon. En tant qu'illustrateur, et j'ai écumé des salons en long, en large, en travers, à peu près pendant presque, on va dire, une bah, pas vraiment une dizaine d'années, mais presque quand même. Hein. Donc, puisque ma carrière d'illustrateur, elle a commencé, c'était en 2014 et en 2021. Bah si, en fait, ça fait beaucoup quand même. Donc voilà, mais bon, voilà. Et en fait, en 2021, je sortais la bande dessinée, donc j'avais quand même du monde, en fait, vraiment qui me connaissait
déjà. C'était pas un inconnu.
Voilà, exactement. Et puis il y a eu un grand truc aussi qui m'a vachement aidé. Alors là, pour le coup, tout le monde a détesté le Covid, mais moi, j'ai vachement aimé pour le coup, pour ça en tout cas. C'est que pendant le Covid, j'ai donné des cours de dessin via Facebook. Et donc j'étais là et tous les deux jours il y avait un cours de dessin avec Jean-Mathias et hop on prenait une heure et je donnais un cours de dessin et je faisais pas à pas avec les gens avec tout le monde et je leur dis ouais c'est génial toi on va dessiner aujourd'hui la voiture de Retour au futur on va faire la tête à Darth Vader on va faire une licorne on va faire un château tout ça machin enfin donc tous les deux jours j'annonçais hein et tout et donc j'avais du monde qui me suivait et les gens adoraient aller voir ou même essayer de dessiner ou les gosses dessinaient et les gens étaient très contents et donc ça a fortifié en fait cette fanbase. Et donc au moment où j'ai dit bah je vais sortir une BD et que les gens connaissaient déjà les Space Kitten parce que je faisais déjà des petites illustrations, des posters, des choses comme ça auparavant hein, déjà j'avais commencé déjà un petit peu à faire mon petit produit marketing, bah les gens ils ont fait wouhou. Voilà et ils ont été super contents. Donc du moment où j'ai alors c'est vrai que faut quand même aller les chercher quand même les 18 000 euros hein, ça tu trouves pas comme ça parce qu'à une BD
ça demande du taf ouais.
Oui, puis la BD si tu avais vendu 20 balles. Donc après il faut faire des packages avec des dédicaces spéciales avec des trucs avec des goodies, on va mettre plus. Bon, voilà, on va faire des trucs vraiment énormes. Il y en a d'ailleurs, il y en a un par exemple, il y a une contribution qui est très très élevée. Et d'ailleurs, je salue ici en fait mon ami Emmanuel Assier qui a participé et qui a pris en fait cette et d'ailleurs, il est donc dans la BD parce que c'était le principe. C'est-à-dire que tu mettais en fait les sous pour être dans la BD. Et du coup, tu deviens un personnage. Et donc, au fur et à mesure, il devient un personnage important. Et c'est le directeur Assier qu'on retrouve, en fait, dans la BD des Space Kittens. Et il y a lui, il y a d'autres personnages comme ça, en fait, qui apparaissent, puisque les gens avaient le droit. Il y avait toujours 3, en fait, contributions. Et c'était...
Par album, hein, par financement.
Oui, c'est ça, ouais, okay. par financement. Donc, c'est là, en fait, que tu crées, en fait, après du contenu. Après, il y a un truc qui est génial, c'est que, bah oui, le 2, il sort et... les gens sont déjà là, la fanbase elle est créée, et ça c'est super.
Il y en a qui se fait. C'est un album plutôt jeunesse, mais t'avais des paliers plutôt pour les grands aussi.
Alors sur le premier, alors sur la première, alors il faut savoir que il y a bien évidemment, il faut avoir regardé en fait une bande dessinée quand tu la sors et quand t'as une intention. Dans l'intention, Space Kitten, ça devait être quelque chose qui devait ressembler plutôt à Nicky Larson, non censuré. Voilà, faut le savoir.
Ok.
Nicky Larson ou un peu Ranma and Me aussi pour ceux qui connaissent. Il y avait un petit côté un petit peu olé olé que je trouvais ça rigolo, un petit peu rigolo. Mais vraiment c'était gentil quoi. Mais je me suis rendu compte au fur et à mesure en fait que je faisais la bande dessinée que finalement et puis le changement de paradigme aussi de la société fait en sorte que finalement on voit aussi les us et coutumes, les mœurs changer et on se rend compte en fait dans la société que d'un seul coup il y a un esprit en fait de dire oh là là attends on va pas mettre trop de poitrine, elles ont vachement de hanches, elles sont bien plutôt bien faites, yo t'es nénette, elles sont super bien. Je dis bah oui, c'est des super héroïnes, vous regardez Wonder Woman. Elle est plutôt bien faite de sa personne, je veux dire, elle est musclée, voilà, c'est normal quelque part. En même temps, c'est un super héros, hein, donc voilà.
C'est un personnage.
C'est le principe en fait de la mythologie grecque.
Mm.
Tu vois, la mythologie grecque, c'était ça le principe, c'est qu'on essayait de mettre un certain palier, on va dire, la beauté, on va dire masculine, féminine. Et il y avait en fait des codes.
C'est donc, une idéalisation voilà. En fait d'un personnage.
Et exactement, c'est cette idéalisation. Et puis bah en fait je me suis rendu compte que bon bah je pouvais quand même aussi enlever des petites choses mais tout en gardant ce côté léger et rigolo. Et c'est vrai que dans le premier Ulule en fait qu'on a fait, il y a eu un palier qui était le Holy Kitten. Mais alors c'était assez rigolo parce que en fait finalement il a assez bien marché ce palier et c'était que des illustrations qui étaient gentillettes hein, c'était vraiment mignon. Hein, c'était genre on voyait un petit bout de sein,
sexy.
Un petit bout de fesse. Oui, c'était mignon quoi. Voilà, il y avait rien de scandaleux ni de vulgaire. De toute façon, j'aime pas du tout la vulgarité. Vous savez les calendriers avec des nanas avec des mini bikinis ou genre il y avait rien à voir. Enfin voilà, avec des gros flingues, ça me saoule direct. Je trouve ça ou tu sais quand elles sont assises sur une bagnole et tout, c'est genre t'as la bagnole, t'as la grosse. Je trouve ça mais genre à gerber quoi.
Cliché.
Donc, ouais vraiment, mais moi en plus c'est vraiment quelque chose en fait qui me parle pas du tout. Et moi je trouve que le côté qui est rigolo en fait, c'est plutôt de le côté un peu potache. C'est ça qui me fait rire moi en fait. Et d'ailleurs, après tout, je suis un peu autour de la table, on a tous connu Nicky Larson, on a vu des dessins animés comme ça, même Jeanne et Serge, il y avait des trucs un petit peu parfois qui étaient marrants.
Oui, c'est clair.
Voilà, et sans être méchant. Voilà. Donc Mais j'ai fait en sorte que ça soit quelque chose pour tout le monde. Et là, j'ai pris en exemple plutôt le principe au fait de Astérix, de les films de Pixar, où finalement l'humour peut être amené par la situation complètement lunaire, et non en fait par une situation potache. Donc ça demande évidemment un effort, mais et je trouvais ça plutôt intéressant en fait, parce qu'au final mon lectorat, il va de 8 à 50 balais.
Oui, c'est le tournant que tu disais tout à l'heure, on passe de Nicky Larson à plus Ranma & Demi, où c'est plutôt situationnel que... Oui. Que le côté grivois un peu qu'on peut avoir dans Nicky
Larson. Oui, c'est ça, voilà, ouais. Parce que, voilà. En même temps, dans Ranma & Demi, il y avait comme le petit pépé, là, qui voulait toujours les petites culottes des filles. Ça, c'était quand même assez,
lui.
Assez lubrique, quand même, hein. D'accord. Mais bon, c'était pas le personnage qui était le plus important. Ce qui était rigolo, c'était le comique de situation et surtout les quiproquos. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et je remercie encore, alors je me rappelle plus de son nom, mais ma prof de français, quand j'étais en cinquième. Nous faisait, pour comprendre et apprécier la langue française, nous faisait écouter des disques de Raymond DeVos. Ouais, parce qu'à l'époque, on écoutait très des cool. disques de 33 tours, donc à ramener en fait des disques. Et en fait, après, on devait disserter, essayer de comprendre les jeux de mots, comment est-ce qu'il tournait les phrases, comment est-ce qu'il jouait avec les mots, et les quiproquos, justement, et les situations complètement ubuesques. Et c'est ça que j'aime bien, en fait, le côté lunaire. Le côté, en fait, où finalement, tu te dis, ah, le type, en fait, finalement, bah, il est tombé dans une situation toute pourrie, mais en fait, il est pas tombé, il a juste trébuché, quoi. Il a fait un pas de côté, cling, il est tombé, puis derrière, en fait, il s'est cassé la figure dans les escaliers, et puis il y a un piano au bout, quoi. Voilà, et il se mange le piano. Donc, c'est plus cet aspect-là que je trouve intéressant, en fait, à raconter, en fait. Voilà. Et ça, c'est facile, en fait, hein, de pouvoir jouer avec l'humour comme ça.
Du quiproquo, ok.
Oui.
Mais on n'a pas parlé de quoi ça parle, en fait, Space Kitten. Est-ce que tu peux nous pitcher Space Kitten assez rapidement?
Bien sûr. Alors, les Space Kitten, c'est... il existe en fait un grand consortium en fait bienveillant et formidable en fait dans l'espace qui s'appelle la Space Kitten et ils ont développé quelque chose qui s'appelle la Space Kitten Attitude. C'est vraiment l'art de vivre, c'est savoir se prélasser, bien manger, prendre le temps, rigoler avec les amis. C'est vraiment tout cet aspect, on va dire, de vraiment, on retrouve le côté humain, sympa, en fait, mais avec des extraterrestres. Parce que au lieu d'être tout le temps dans le stress, tout ça, machin, tout ça, eux, vraiment, ils ont installé ça et ils ont une technologie de malade. Alors, la technologie des Space Kitten, elle s'explique pas, hein, c'est un truc de fou. Hein. Voilà. Donc, un jour, il y a donc Féline, qui est la porteuse de l'émeraude de l'espoir. Donc, elle a une espèce d'émeraude un peu à l'indienne sur le milieu de son front. Et donc, elle vient en fait avec sa sœur Jean Keaton sur Terre. Et elles sont accompagnées de leur précepteur, Bully, qui est un chat violet qui parle. En fait, c'était pas un chat, puisque c'est un extraterrestre. Donc voilà.
Et, il ressemble beaucoup à un chat quand même.
Il ressemble beaucoup à un chat, mais si on y regarde bien, en fait, c'est une espèce de chat, un mix avec un panda roux. Hein. Donc sauf qu'il est violet. Oui. Donc d'ailleurs, j'en joue de ça dans le 2 justement, parce qu'à un moment, il se transforme et pour passer un peu inaperçu, il prend juste les couleurs d'un chat, d'un panda roux. Et il passe pas du tout pour un panda roux.
Donc voilà. Il est un peu, c'est un running gag, un peu bully.
Oui, complètement. Ce chat qui parle. Voilà, elles arrivent en fait sur Terre en se disant waouh, on va apporter en fait l'espèce qui est à l'attitude. Donc elles ont étudié les humains en regardant, en captant en fait les émissions télé des années 80 parce qu'elles ont trouvé que c'était marrant, parce qu'elles ont trouvé qu'il y avait de la couleur, parce qu'elles ont trouvé que c'était, il y avait plein de références rigolotes et tout et tout. Et elles adorent les films indiens, les films de Bollywood. Donc elles débarquent avec cette idée en se disant que c'est ça en fait l'humanité, ça peut être sympa en fait d'arriver comme ça. Et évidemment, elles arrivent chez Leroy qui lui veut préparer absolument son entrée au lycée des Lumières, qui est un lycée en fait qui est super important, hyper high level et tout ça du tout. Mais lui, hyper sérieux, il veut que la maison soit au carré, le lit au carré, tout doit être nickel comme ça, machin et tout. Et elle débarque chez lui et elle veut faire une colocation avec lui.
Et bien sûr, ça va être chaud.
Évidemment, tu vois bien le clash en fait qui va se produire entre ces deux, on va dire. Et c'est ça que j'aime bien, c'est le choc en fait de civilisation où finalement on peut l'avoir tout le temps. Hein. C'est-à-dire que tu te retrouves dans un pays ailleurs et là t'as un choc de civilisation. Donc il faut se comprendre et les Space Kitten vont devoir apprendre en fait à se comprendre avec Leroy qui lui ne comprend rien aux filles déjà pour commencer et elle comprend rien aux humains. Donc ça part déjà dans le mur. Et puis ben il y a les méchants qui arrivent. Et là ça devient en fait un autre problème. Et Leroy, grâce à elle, en fait, il va aussi se développer et développer justement cette Space Kitten attitude.
C'est plutôt cool, ça.
Ouais.
Ceux qui connaissent, alors, C'est autant il y a beaucoup de mangas qu'on connaît. On peut trouver des petites similitudes avec Lamu. Je sais pas si oui. C'est une source d'inspiration de ton côté ou pas.
Ça pourrait, ouais. En fait, si tu veux, il y a beaucoup de sources d'inspiration. Comme je suis né en fait dans les années 70, pour moi, finalement, j'ai jamais lâché ça. J'ai toujours fait partie en fait du monde en fait du dessin et de l'illustration. Et la chose qui m'a toujours bercé, moi, si tu veux, c'était justement ces dessins animés. C'était Scooby-Doo, Mythor, Capitaine Caverne qui était complètement loufoque aussi.
Terrible.
Un truc de dingue, Capitaine Caverne, mais j'adorais quoi, vraiment. Et puis il sortait des animaux comme ça en fait de sa
barbe.
Fourrure, de sa barbe. Il avait une massue dans laquelle il y a un oiseau avec une bougie, c'est n'importe quoi. Et mais c'était génial. Et puis il y avait ces trois filles à chaque fois qui disaient ah mon Dieu vite et tout. Donc c'était assez drôle. Il y avait un personnage aussi formidable qui s'appelait Samson et Goliath, le type avec son petit scooter et son chien tapait dans ses bracelets. Il transformait son chien en lion géant et lui quand il tapait dans ses bracelets, il devenait Colosse, un type qui mettait des grosses droites à des monstres et tout ça et tout. Donc ça, c'était quand même assez cool. Et puis ensuite, après, il y a eu tous les dessins humoristiques qui étaient rigolos. Et en même temps, il y avait, moi, comme je suis né là-dedans, j'ai suivi toujours en fait cette idée du dessin animé en regardant Goldorak, Albator, Candy. Et puis après, derrière, il y a eu l'Empire des Cinq, il y a eu Wingman, il y a eu plein de séries en fait animées qui étaient très rigolotes. Et avec lesquels je me bidonnais comme pas possible. Alors que j'avais 15, 16 ans, hein, mais je m'en foutais. Je regardais aussi les Chevaliers du Zodiac. Et j'ai chialé à regarder Athéna, tout ça, machin et tout. Les Chevaliers du Zodiac, c'est incroyable. Donc, j'ai été bercé par tout ça. Et en même temps, je lisais aussi les comics américains.
Tu vois? Ouais, donc t'avais les deux univers.
Bah, complètement. Je veux dire, tu prends Ghost Rider de Mark Texiera. C'est juste une claque monumentale dans les années 90 parce qu'il refait complètement le style graphique de Ghost Rider avec une moto, le type, il a un blouson clouté, c'est une espèce de d'ange vengeur à tête de mort. Il y avait le renouveau aussi de Spider-Man avec Todd McFarlane. Tu as eu l'apparition de grands noms, en fait. Il y avait déjà John Byrne, mais il y avait aussi Jim Lee, il y avait Arthur Adams. Bref, il y avait des auteurs de BD qui envoyaient tellement du lourd que moi, ça me donnait envie de faire des trucs comme ça, hyper cool, avec des héros, vraiment, en fait, cet aspect vraiment comics. Et il n'y avait pas le manga encore, hein, papier.
Ouais,
et puis,
encore,
c'est
oui.
Beaucoup plus tard, en fait, vers les années 2000, que j'ai commencé à découvrir le manga papier, vraiment. Et là, ça a été aussi une super école. Donc, je me suis dit, après, qu'est-ce que je fais avec les Space Kittens? Je fais une BD belge à l'Astérix, parce que c'était marrant. Je fais une BD américaine, ça, tout le temps avec un côté vachement baston. Je fais un manga, je vais prendre les trois parce que je suis né de cette culture et boum.
Ça se ressent bien.
Ouais, tu trouves?
Ouais, je trouve, ouais. Bon, en fait, à chaque fois qu'on va, qu'on parcourt, même si je trouve que l'influence manga est peut-être un peu plus dominante que les autres, c'est mon avis, hein.
Oui, bien sûr, oui. Donc, je l'assume.
Mais il y a vraiment un mélange. On retrouve le côté très super-héros, on retrouve le côté BD franco-belge parce que on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais tu te situes aussi dans des lieux qu'on connaît hein, et qu'on peut identifier si on est au niveau du local. Il y a la couleur aussi.
La couleur qui est hyper importante dans les Space Kittens. C'est-à-dire que je n'imaginais pas faire les Space Kittens sans mettre de la couleur. Ah non. Disons que je ferai une édition peut-être un jour noir et blanc spécial, vraiment machin, nanan, tu vois, un truc un peu collector. Mais au début, pour moi, les Space Kittens, c'était en couleur. Il fallait que ça claque comme Sailor Moon. Voilà, il faut qu'il y ait des effets spéciaux, genre Sailor Moon, tu vois, ou je sais pas moi, Gremlins, Star Wars, tu vois, tous ces trucs-là, tu vois. Quand tu regardes Retour vers le futur, les couleurs dans Retour vers le futur, quand tu...
Elles sont saturées, il y a du...
Ah ouais, mais puis c'est les années 80, donc ils ont des choucroutes sur la tête, tu vois, c'est un truc de fou, quoi, c'est génial pour ça, tu vois. Ou Créatures de rêve aussi, qui est aussi une énorme inspiration, si tu veux, de l'humour, justement, de ces films américains qui étaient complètement barrés, La Folle Journée de Ferris Bueller... tout ça quoi.
Que des classiques. Hein.
Ah bah oui, mais moi je
ne. Je crois qu'on a perdu Florence depuis tout à l'heure.
Non.
Non, Ferris Bueller, ça va?
Ah oui, non, mais j'ai.
Le Retour vers le futur, tu connais Florence?
J'écoute, mais ça veut pas dire que je connais tout.
Ah, mais tu connais le Retour vers le futur quand même, tu vois, voilà.
On a entendu parler.
Voilà, c'est ça. Donc.
Moi, il y a une influence que t'as pas citée sur les animés. Cosmo Cat. forcément des grands grandes personnes en version chat.
C'est ça qui est assez rigolo. En
c'est
fait,
que c'est pas du tout.
Quand j'ai créé les Space Kittens, je ne pensais pas du tout aux Cosmoquettes.
Sérieux?
Ah mais sérieux, je te jure. Et c'est plus tard en fait que je me suis rendu compte que la tête de Féline, bah on pourrait croire que c'est la cousine de Starlion dans Cosmoquettes, mais complètement quoi. Et à un moment, j'ai fait même un poster en fait avec les deux personnages côte à côte en disant oui, comme un air de famille, Cosmoquettes vs Space Kitten. En plus, j'ai même pas fait attention en fait à Space Kitten parce que Cosmoquettes, qui est le nom français, mais en anglais c'est Thundercats, donc ouais, les chats du tonnerre, tu vois, c'est des gros machins, comme ça, ils sont très, très, ouais, on est là, tout, puis Starlion, tout ça. Et puis les Space Kittens, les chatons de l'espace. Donc quelque part, il y a vraiment
une filiation qui
s'est une filiation, mais complètement, mais à mon insu, tu vois, c'est incroyable. Je sais pas qui a fait ça, tu vois, mais je dois avoir
je
une.
Je pense qu'ils t'ont copié.
Non, je sais pas, tu vois, ou c'est moi, je dois avoir une double personnalité, tu sais, comme dans Fight Club, tu vois, donc voilà, il y a un deuxième, il y a Jean-Mathias et JMX, je sais pas qui a décidé de quoi, tu vois, mais vraiment, ça, c'est un truc, souvent, en fait, on me dit, ah, c'est marrant, c'est Space Kitten, ça fait penser à Cosmoquettes, mais on a aussi beaucoup qui me disent, ça me fait penser à Cat Size, alors que les Cat Size, ça n'a rien à voir.
Pas d'accord. Enfin, Cat Size, pour moi, ça a effectivement rien à voir.
Oui, oui, mais dans la tête des gens, il y a quelque chose, une espèce de
une confusion mentale, je pense là, clairement.
Peut-être. Bon, c'est pas grave. En fait, si tu veux, c'est vrai que quelque part, les Space Kittens, c'est vraiment cette BD. Elle est aussi, tout en étant originale, une. Elle a vraiment une affiliation avec tout cet univers-là, en fait. Vraiment. Et je l'assume complètement. Moi, quand je dis ouais, c'est vrai qu'effectivement, ça m'a fait délirer. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'après, on regarde Jean Keaton avec ses cheveux blancs, avec ses machins. Et puis, ma femme, elle a les cheveux blancs depuis très longtemps. Elle a la coupe au carré. Et puis, souvent, on lui dit, ah, mais en fait, c'est vous, en fait, qui, inspirez votre mari. Alors, j'ai dit, oui, oui, tout à fait. Oui, c'est ma femme qui m'a inspiré. C'est mignon. C'est très chouette. Donc, voilà. Mais après, elle met même en convention.
En festival, elle met les oreilles.
Elle met les oreilles, elle met les boucles d'oreilles. Bon, c'est marré à faire le collier et tout de Jean Keaton. Parce que, et ce qui est rigolo, c'est que Jean Keaton, ça, pour le coup, on parle, si je peux me permettre encore
vas-y,
de.
Vas-y.
Jean Keaton, c'est pour moi. Alors, je me suis rendu compte de ça autant pour les Cosmoquettes. Tu vois, j'ai pas du tout vu le truc arriver. Mais quand j'ai fini d'essayer Jean Keaton, j'ai commencé vraiment à faire la. Parce que c'est parfois quand tu fais une bande dessinée, c'est un truc assez rigolo, c'est que tu vois que le personnage se développe et tu sais d'où est-ce qu'il vient, son influence en fait, de ce qu'il est. Tu vois. Et pour moi, en fait, Jean Keaton, c'est Marilyn Monroe dans certains Lame Show.
Okay.
Il y a quelque chose de loin non loin avec Marilyn Monroe. Dans son côté titi avec sa petite coupe de cheveux comme ça. Et comme en fait moi, je me suis rendu compte que je regardais le film quand j'étais môme en noir et blanc et que le film à la base il est en noir et blanc, donc je n'avais aucune idée des cheveux de Marilyn Monroe si ce n'est qu'ils étaient blancs. Tu vois. Et j'ai trouvé ça cool.
Et maintenant que tu le lis, effectivement, il y a ça quoi.
Voilà, le côté poupette marrant avec ses yeux comme ça quand elle rigole et tout, même dans ses expressions, je me dis c'est un truc de dingue. À quel point ça peut nous influencer, mais d'une manière on va être complètement. C'est vraiment profond, quoi, tu vois. C'est complètement inconscient, là. Tu vois, on est vraiment dans l'inspiration inconsciente, tu vois, qui est assez rigolote. Tu vois, voilà.
Et par contre, il y a de l'inspiration consciente, puisque tu mets plein de petites anecdotes, plein de petits trucs un peu partout, dans les trois tomes.
Ouais, complètement.
Est-ce qu'on peut en citer quelques-unes? Alors, il y a des références à Goldorak.
Ah oui.
Très évidentes.
Bien sûr.
Il y a des petites références un peu plus cachées, plus derrière.
Il y a, par exemple, oui, il y a des fois, par exemple, dans le tome 1, il y a les filles, en fait, qui froncent un peu des sourcils contre Leroy. Ils disent, quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème avec les chats et tout ça. Et puis Leroy, en fait, il met sa main en V, comme Monsieur Spock, il fait, ah, moi, je suis venu en paix. Donc, et on voit, en fait, voilà, il y a des petites rêves comme ça. Ou par exemple Bully, par exemple, il y a quelque chose que j'adore dans Ulysse. Alors ça, c'est complètement assumé et je le dis vraiment. Hein. Le personnage de Bully qui est violet, il a une petite sphère au-dessus de la tête qui le suit partout et cette sphère lui permet de parler. Si on lui enlève la sphère, il se fait affermir miaou. Mais quand on lui met, il commence à parler. Il parle un peu comme ça, monsieur, n'est-ce pas, je suis très content d'être Bully.
Il roule les airs,
il a un espèce de vieux accent russe pourri des années 80. Mais en fait, ce vieux accent russe pourri des années 80, ça vient en fait de mon idée que je trouvais génial l'accent de monsieur Tchekhov. Capitaine Kirk, il faut faire remonter monsieur Spock. Tu vois, et je trouvais ça génial parce qu'il avait un accent vraiment tu dis non mais il y a aucun russe qui parle comme ça, ouais. Ouais, complètement. Et en fait, pour moi, Bully a aussi étudié les humains et il s'est dit tiens, c'est marrant. Alors c'est pas du tout dit dans la BD, mais on sait qu'il a un accent russe pourri parce que Leroy le dit. C'est quoi cet accent russe pourri? Mais pour moi, Bully a étudié les humains en regardant les séries Star Trek et il s'est bidonné en fait à regarder Monsieur Tchekhov. Il trouve que son accent est génial et c'est pour ça qu'il parle de cette manière-là. Et en plus de ça,
logique.
Et cette petite orbe qu'il a au-dessus de la tête, C'est un hommage au personnage de Thémis de Ulysse 31 qui avait toujours une petite sphère au-dessus de sa tête qui était trop mignonne. Elle était trop rigole. Moi, j'adorais. En plus, elle est dessinée par Shingo Araki, donc qui est le master of the universe du chara-design des Chevaliers du Zodiac. Donc, et qui a fait avant, quand il était plus jeune, les chara-design d'Ulysse 31. Enfin, pour certains personnages. Et donc, il a dessiné Thémis et Noumaios, qui sont les personnages qui accompagnent, surtout Thémis, qui accompagnent Ulysse et Télémaque dans leurs aventures dans le 31e siècle. Et cette petite fille, elle est violette. Elle a des yeux de chat, un petit peu, quand même. Et elle a une petite sphère au-dessus. Et je trouvais ça trop marrant parce que quand même elle enfilait un casque. Tu vois, c'est trop drôle. Elle enfile un casque, en fait, de cosmonaute. Ben, sa petite sphère, elle arrive, pouf, elle se retrouve au-dessus.
Elle se remet au-dessus.
Elle a toujours une petite sphère qui est au-dessus. Mais je trouvais ça trop rigolo, quoi, tu vois. Et donc, je me dis, tiens, je vais lui mettre ça. Parce que c'est un hommage. Voilà. J'aime bien rendre hommage, en fait, à mes personnages qui m'ont fait rêver au travers de ma BD.
Et ben, ça marche.
Ben oui, tout à fait. D'ailleurs, dans le 3, il y a un hommage à un des monstres de Gonagai, même à Ken le survivant, rapidement, mais c'est très
simple. Ken le survivant, je l'avais bien repéré.
Ah, Gonagai,
je
l'ai
aussi, effectivement.
Voilà. Voilà, c'est pour ça que c'est des trucs cachés. Il y a des choses où je cache pas du tout. Il y en a
qui sont obvious et puis il y a des petits easter eggs où faut être un peu plus pointu.
Voilà, c'est ça. Il faut avoir la ref. Si on l'a pas, c'est pas grave. Elle passe complètement à la trappe, mais il y en a d'autres où c'est vraiment flagrant. Bam! Voilà.
Tu dis il faut avoir la ref. Alors le tome 3 on peut pas se lire si on n'a pas lu les deux premiers.
Non,
c'est vraiment une suite directe du tome 2. C'était voulu d'avoir vraiment une continuité ou t'aurais pu faire des épisodes un peu plus séparés pour
Non, vraiment, je voulais vraiment, étant donné que j'étais parti sur le principe que le 1 c'était un coup d'essai. C'est-à-dire que tu lances ta première BD, tu dis je vais faire une fin ouverte, une première aventure, quelque chose qui se passe. Là au moins comme ça, ça marche pas. On va bien voir qu'est-ce qui va se produire. Bah déjà super, on a eu les 22 000 euros pour faire la campagne.
Perfect.
Déjà c'est bon. Donc je sais que j'ai 1000 exemplaires en fait que je peux après j'en ai 500 qui sont envoyés en fait aux contributeurs et puis après 500 autres en fait que je vais écouler en fait durant les salons. Donc ça c'est bien. Après on regarde parce que si effectivement il me faut 3 ans pour écouter 500 exemplaires, c'est-à-dire que c'est un flop, c'est un four. Hein. Donc moi en même temps je suis illustrateur mais je vis avec les pieds vraiment dans la réalité, on va dire production. C'est pour ça que le dessin animé ça a été génial parce que quand je travaillais dedans j'ai pas été que dessinateur, j'étais aussi j'ai travaillé aussi dans la partie production, vraiment assistant de production, tout ça machin et tout. Donc c'était super intéressant parce que j'ai fait des budgets, des choses et tout, donc c'était super intéressant. Et donc pour moi il faut que le produit il marche. Si le produit marche pas, hop, on s'en fout, on passe à autre chose. Donc voilà, donc j'étais parti là-dessus et c'est vrai que le tome 1 s'écoule à peu près en un an. Je me dis, ouais, bah, on y va,
ça
alors.
Ça va, quoi.
Ouais. Bah, disons que, en faisant que des salons et, quelques dédicaces, j'ai dû peut-être faire 3-4 dédicaces dans des librairies et j'ai écoulé 500 exemplaires. Ça veut dire que le tome, ça marche.
Ça marche.
Donc, je peux lancer le 2. Et le 2, je me suis dit, maintenant que les gens sont là sur le 2 et qu'ils vont aller, je sais que j'ai mes contributeurs et ma fanbase qui va aller chercher les bouquins, plus les personnes qui ont acheté le livre. Qui vont l'attendre. Donc, je sais que je vais pouvoir terminer le tome 2 avec vraiment une aventure qui est complète, quand même. D'accord? Mais qui se termine sur un climax de malade. Histoire de, waouh, mais qu'est-ce qui m'a passé? Voilà. En fait, j'ai rien inventé, hein. George Lucas l'avait fait, hein. Star Wars, épisode 4, hein. Et puis après, l'Empire contre-attaque, bam. Que va devenir Han Solo? Où est-ce qu'ils vont se passer? Machin. Et on veut absolument connaître la suite. On fait, oh non! Voilà. S'il faut que ça finisse comme ça, quoi. Et ben, le 3, c'est la suite. Direct. Ah vraiment, c'est
hors direct, mais avec un petit temps d'attente entre les deux. Effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, t'as eu un souci de santé qui t'a empêché de dessiner.
Oui.
Ça n'a pas été trop dur cette période-là. Est-ce que tu t'es dit à un moment peut-être que je pourrais pas faire la fin?
Ah bah c'est surtout je me suis dit surtout c'est comment je vais vivre. Je me suis même pas posé la question sur tu te retrouves avec un virus en fait si je peux en parler vite fait.
Mais tu peux.
Seconde, hein. Tu vois voilà j'ai eu un virus en fait qui s'est logé le virus de l'hépatite E au lieu de se mettre dans mon foie s'est logé dans mon épaule ce qu'on appelle un syndrome de personnage Turner. Et donc du coup le virus se loge au mauvais endroit, les anticorps ils arrivent, c'est un peu le GIGN hein, les anticorps dans notre corps hein, nous hein, ils arrivent, font le virus là, on va le dégager. Et là, ils ont tout détruit les nerfs, le virus, tout ça, hop à la poubelle. Donc j'avais plus de nerfs dans le bras droit. Voilà, c'était génial.
Ça aurait été le bras gauche, je pouvais dessiner, mais le droit, c'est plus compliqué.
Ouais. Ah, vraiment, ouais. Et puis surtout, c'est que ça ne bouge pas. Hein. C'est-à-dire, t'as plus la lumière, t'as plus le son, t'as plus rien. C'est-à-dire que tu sens en fait que tu envoies une commande et que il y a rien qui répond derrière. Ça a été vraiment très dur. Ben, la première chose, c'est que j'ai même pas pensé à la BD. Je me suis dit là, c'est le craquage total. Ma vie, elle est morte. Là, voilà. C'est et j'ai je me suis dit bon, ça a duré 48 heures. J'ai souffert énormément parce que c'est un truc comme ça, en fait, où vous avez les nerfs qui sont détruits, vous avez les anticorps qui sont en train de combattre dans votre corps, tout ça, machin et tout. Vous dormez pas pendant plusieurs semaines. Vraiment pas du tout dormir, hein, parce que ça, c'est des chocs électriques, c'est une inflammation, mais de folie. Heureusement que j'ai eu après une infiltration, tout ça, machin et tout, et que j'ai eu des traitements, en fait. Il faut attendre. Les nerfs repoussent. Il faut savoir quand ils sont pas sectionnés, les nerfs, ils repoussent. Ça, c'est génial. Mais bon,
ça demande du temps.
Oui. Oui. Ça demande du temps. Et puis même encore aujourd'hui, j'ai quelques séquelles quand même, hein. Ça se voit pas, mais, c'est un peu un handicap, on va dire, un peu caché. Mais c'est pour ça aussi que la bande dessinée a pris un petit peu de temps quand même à être faite. Je me suis dit, bouhou, on y va. Mais en fait, non. Le bras fatigue. Il y a des choses, en fait, qui se produisent,
ouais,
en
ça,
fait.
Ça, des séquelles, ouais.
Oui, voilà. De toute façon, ça se reconstruit, heureusement. Mais voilà. Et, le truc qui par contre, je me suis dit, là, bref, au bout de 48 heures, même si je douillais, je me dis, bon, bah, j'ai pas 50 000 choix. Si je veux continuer à faire ma vie, bah, je vais me mettre à dessiner avec la main gauche, comme mon maître, Franck Frazetta, qui lui-même avait eu un AVC, qui pouvait plus dessiner de la main droite, donc il s'est mis à peindre de la main gauche. Donc, je me suis mis à dessiner de la main droite, à de la main gauche. Et j'ai commencé.
Difficile.
Au début, ouais, c'est quand même difficile. Mais si, le truc qui est quand même bien, c'est que si je partais pas de zéro, j'avais toute la matrice et la connaissance du dessin et les proportions dans la tête. Donc ça veut dire qu'il faut juste régler l'outil qui se trouve au bout de mes doigts, en fait,
okay. Voilà,
qui eux sont pas du tout habitués à dessiner de ce côté-là. Donc il faut recréer tous les liens et les liens neuronaux. Ça c'est un truc de fou, hein. Et vraiment tu sens, hein, vraiment que tu forces. Et je me dis mais attends, mais quand j'ai la main droite, je fais comment? Et donc je visualisais, et puis ah putain c'est comme ça et tout. Faut dessiner tout, en fait, si tu veux. Après au bout de 4-5 mois, j'arrivais à assez bien dessiner. Très lentement, mais assez bien dessiné, faire des portraits et tout ça et tout, réaliste et tout, tu vois. Donc, aujourd'hui, l'intérêt, c'est que je suis ambidextre.
Oui, maintenant, tu peux dessiner des deux mains en même temps ou pas?
Alors, en même temps, c'est plus facile que de le faire, en fait, séparément.
C'est vrai?
Oui, tu peux faire, en fait, un visage en symétrie, en fait, avec les deux mains, c'est beaucoup plus. On nous regarde comme ça, on se dit, oh, comment il fait et tout, tu sais, les gens sur YouTube et tout. Mais en fait, c'est beaucoup plus facile, en fait, qu'on ne le croit.
Ok.
Voilà.
Ben, parfait. Donc du coup, tome 3, sortie très récente.
Oui, au mois de mai.
Au mois de mai. Le synopsis, on va pas en reparler, c'est la suite directe du 2. Donc ouais. Si vous avez pas lu les autres, commencez par cela avant d'attaquer le 3. Les contributeurs le reçoivent dans pas très longtemps.
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut dire de plus dessus qu'on n'aurait pas déjà dit?
Que c'est le tome 3, en fait. Alors pour ceux qui ont déjà le 1 ou le 2, c'est ascensionnel, c'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais. Les Space Kittens, c'est un feu d'artifice. C'est-à-dire qu'on commence avec un feu d'artifice, puis après le 3, c'est vraiment, on va dire, le bouquet final. C'est tu l'as lu, tu vois, et c'est loufoque.
Ah bon, moi j'ai voilà,
c'est encore plus loufoque que les deux le 2 et encore et le 1. Voilà, le 1 on est dedans, on se marre. Le 2 on se dit waouh, ça commence déjà à envoyer du lourd, et puis le 3 c'est carrément mais des situations qui je me suis amusé. C'est le plus important, en fait. Ce que j'aurais à faire passer, c'est que lorsqu'on fait une bande dessinée, c'est hyper important, en fait, de s'amuser. Mais en fait, moi, j'ai une chance énorme. Enfin, je pense, en fait, avoir cette chance énorme. C'est que, comme je dédicace tout le temps mes livres et que je rencontre mes lecteurs tout le temps, je vois aussi leurs réactions. C'est-à-dire que j'ai fait le choix, important aussi, de diffuser ma bande dessinée moi-même et ne pas passer par un réseau de libraires ou pas passer par un diffuseur. C'était pas parce que je les aime pas, mais c'est parce que je voulais rencontrer mes lecteurs et je voulais en fait vraiment partager ce plaisir de BD, un peu comme ouais j'étais dans un resto, viens on y va, c'est sympa, tu vas voir on mange bien et tout. C'est pas vas-y va voir le resto c'est bien, tu vois, ou va voir ce film c'est bien. C'est on va en ami, en copain, on va se marrer ensemble. Et là à ce moment on se marre ensemble. Et moi en fait quelque part les Space Kittens c'est ça aussi, c'est aussi cette expérience humaine. Et je me rends compte en fait que quand j'ai fait le 2 et le 3 aussi, parce que le 1 j'avais moins cette sensation, mais le 3 je sentais vraiment quelque part en fait le plaisir de préparer en fait cette gastronomie picturale et BD pour les copains, parce que pour moi les contributeurs c'est des copains et vraiment c'est hyper important en fait pour moi de leur faire plaisir, de me faire plaisir, de les faire plaisir, de faire vraiment le show, quoi. Voilà, et j'espère l'avoir réussi.
Bah écoute, moi je trouve que c'est plutôt réussi. S'il y a une suite, j'en suis carrément. Mais il va falloir attendre un petit peu, je pense.
Ouais, j'ai un autre projet en fait. J'ai deux autres projets en tête avant, mais ça c'est vrai que les Space Kittens c'est comme Caroline ou Tintin, hein, On peut faire plein d'histoires avec.
Ouais, y a plein de...
ça s'arrête jamais. Hein. C'est, tu finis une histoire, t'as vaincu le méchant, bah, tu peux avoir un autre méchant, il y a encore une autre histoire, il y a encore une autre histoire. Hein. Ça s'arrête jamais, c'est la vie, quoi. Hein.
C'est clair. On arrive sur la fin de l'interview. Moi, j'ai un petit exercice qui est tout simple. Si tu dois pitcher Space Kittens, mais vraiment très court, le côté impactant pour de nouveaux lecteurs, de nouveaux copains. Comment tu leur expliques Space Kittens ?
Space Kittens, c'est une aventure fantastique de science-fiction, très acidulée, comme des bonbons Haribo, s'appétit, ou les navettes, là, et on en prend plein la figure. C'est super drôle et c'est mignon en même temps, et on a des émotions parce qu'il y a aussi de l'aventure, des tensions, des combats, parce qu'il y a ça aussi quand même, hein. Elles font du Viet Vodao quand même, parce que j'en fais aussi. donc voilà, elles savent se défendre, c'est pas que des
c'est pas que de la bimbo.
Ouais, c'est pas que de la bimbo, c'est surtout pas de la bimbo, justement. C'est ça qui est intéressant dans les Space Kittens. C'est au début, on les voit, on fait, ouais, elles sont mignonnes, mais non. C'est des filles qui envoient du pâté. Elles sont drôles et en même temps, elles savent aussi mettre des droites aux méchants, quoi.
Parfait. si les gens veulent te suivre, éventuellement acheter l'album, où est-ce qu'on te trouve? Réseaux sociaux,
réseaux sociaux, festival, évidemment. Là, par exemple, je vais aller au Japan Tour Festival. Donc, on pourra me retrouver là-bas. J'ai un énorme stand, un bon joli stand, en fait, qui fait plus de 12 mètres carrés où... chez Amy, on a des tables, on peut même venir dessiner des Space Kittens en même temps que je suis en train de dédicacer. Donc les gens peuvent venir s'asseoir et voilà, le Japan Tour me reçoit en fait en tant qu'invité et m'offre en fait un espace assez grand. Hein. Faut comprendre que normalement les auteurs, quand ils sont indépendants et qu'ils sont tout seuls, ils ont des mètres carrés, ils ont 4 mètres carrés, 6 mètres carrés, pas plus. Moi j'en ai plus de 12. Donc, ouais. Donc voilà, donc il y a de quoi faire en fait, vraiment quelque chose d'intéressant. Et puis, ben ensuite, après, il y a le site internet qui est www.space-kitten.com. Voilà, tout simplement space-kitten.com. On peut trouver la bande dessinée, on peut la commander directement en ligne. Et en plus, normalement, alors si on en commande 3 en même temps, il y en a un seul qui sera dédicacé. Mais quoi qu'il en soit, on a toujours en fait un album dédicacé dans les lots.
Parfait.
Voilà.
Réseaux sociaux, Instagram, Facebook.
Réseaux sociaux, Instagram. Il suffit de chercher en fait Jean-Mathias Xavier. C'est assez simple. Hein. Je suis le seul en France à porter ce nom-là. Donc, ça
c'est trois prénoms du coup.
Trois prénoms. Voilà. Donc, il y a des Jean-Mathias, il y a des Jean, il y a des Jean-Xavier, des Mathias-Xavier. Mais je suis le seul à porter le nom Jean-Mathias-Xavier. Donc, sur Instagram, on tape Jean-Mathias-Xavier. Vous voyez un espèce de gars qui ressemble un peu de très très loin à The Rock. Donc moi d'ailleurs je me dis parfois je m'appelle El Pedro, n'est-ce pas? Donc voilà. Et puis ben c'est à peu près pareil pour Facebook. J'ai pas de TikTok machin et tout. À un moment okay. il faut limiter et être sur les réseaux sociaux qu'on comprend et qu'on arrive à pouvoir aller partager facilement quoi. Voilà.
Eh ben c'est parfait. Merci beaucoup Jean-Mathias.
Ben merci beaucoup Sébastien. Merci aussi au reste de l'équipe.
Et puis on t'accueillera pour tes prochains projets.
Merci.
Bruno, tu nous as prévu une chronique. Alors, ça va changer de registre, hein, si j'ai bien compris.
Ah oui, on va redescendre sur Terre et pas du tout dans le futur ou dans la science-fiction. Des choses.
Mais un tout petit coup musical avant.
Alors, tu peux, ouais, ça servira d'intro.
Comme il ne reste pas beaucoup de temps, ouais. Je laisse en bed.
Ouais, ouais, pas de souci. Enfin, tu peux le laisser en petit fond sonore comme ça, c'est sympa.
Ouais, c'est bien. Ça
donne bien le ton. Et donc, je vous parle de quoi? Je vous invite à revenir ou à découvrir l'usine. Parce que, en fait, l'histoire repasse toujours les plats. On est en 1983. La gauche au pouvoir en France avait renoncé à l'anticapitalisme et cédait au réalisme économique. La rigueur pour les intimes. Forcément, les premiers à trinquer étaient au bas de l'échelle sociale. C'est sans doute lié à la nature profonde de l'être humain, dont le cerveau d'Homo sapiens se retrouve rapidement ses bons vieux réflexes de chasseur-cueilleur. Dès que ça va mal et qu'on n'y peut pas grand-chose, on se console en cherchant des responsables. Et comme c'est bien trop compliqué de s'en prendre à ceux qui sont en haut de la pyramide, et qui sont beaucoup à l'origine du problème, on se retourne vers ceux qui sont à la base et qu'on identifie comme étant en dehors de la norme, les étrangers. par opposition au beau français, de la bonne couleur et avec le patronyme qui va bien. Ça vous rappelle quelque chose ? Bah ouais, plus de 40 ans après, ça n'a absolument pas changé. Sauf que 1983 avait deux avantages sur la période actuelle. Premièrement, ceux qui pensaient que l'immigration est la source de tous les problèmes ne gagnaient pas d'élection. Et on écoutait du punk. Du made in France, bien de chez nous pour le coup, car c'était l'âge d'or des berruriers noirs qu'on entend en fond sonore. Voilà ainsi planté le décor de Bleu de Chauffe, une BD qui nous fait revivre cette époque donc pas si révolue que ça, et nous plonge dans le quotidien de banlieusards prolos qui s'organisent pour défendre leurs droits. Parmi eux, Ahmed, délégué syndical à l'usine Citroën d'Aulnay-sous-Bois, qui brame l'international dans sa camionnette recouverte de stickers CGT. Le plus gros problème d'Ahmed, ce n'est pas le patronat ou les conditions de travail, c'est Karima, sa fille aînée. Une cuponne, bad girl, qui fréquente les squats, nargue la police, fait de la boxe et écoute les berrues. La jeune femme n'a pas peur de se friter avec les skinheads nazillons qui bossent dans le secteur comme convoyeurs de fond et rêve de tabasser du rebeu et de renvoyer tous ces arabes, entre guillemets, chez eux. Un politicard d'extrême droite utilise ses décérébrés pour mettre le feu aux poudres et échauffer les esprits en stigmatisant les immigrés. Dans cette bande de faf, Sergio, pourtant lui aussi fils d'immigrés, semble le plus badass avec ses tatouages nazis sur le corps, son CV d'ex-tolar, ce qui fascine d'ailleurs ses camarades, et sa frappe de cogneur. Mais tout cet attirail cache un mal-être plus profond. Entre ces mondes et ces êtres que tout oppose, sur fond de manifs, d'affichages nocturnes et de violences sociales, l'affrontement est inéluctable et les événements dramatiques vont se succéder jusqu'à l'embrasement final. Lionel Chouin est allé à l'essentiel pour faire revivre le remous de ces années 1980. Son intrigue s'attache d'abord à mettre en valeur les personnages écorchés par leur vécu dans une chronique sociale qui échappe à une mise en perspective historique bavarde, didactique, et ne verse pas non plus dans le polar convenu, même si on devine que la commissaire a elle aussi sa part d'ombre. Le trait acéré et la mise en couleur très sobre de l'auteur concourent à l'authenticité des protagonistes et cadrent bien avec l'esthétique punk qui fournit la toile de fond musicale du récit et la restitution d'une époque, les années 1980, qu'on a un peu trop tendance à idéaliser aujourd'hui. Sauf bien sûr quand il s'agit de se remémorer l'effervescence musicale de la scène rock alternative très politisée, symbolisée par les berruriers noirs donc, qui scandaient « La jeunesse emmerde le Front National ». Qui sont les berrues d'aujourd'hui ? Voilà. Donc, c'est paru chez Glénat le 4 février 2026, donc c'est un one-shot. Et ça fait 120 pages, pardon, 22 euros. C'est effectivement un récit salutaire, on va dire. C'est bien d'avoir des petits flashbacks comme ça sur des événements ou sur des situations sociales, parce qu'on s'aperçoit vraiment que les choses changent pas énormément finalement.
Un peu triste à dire quand même, mais ouais. Eh ben. Parfait. On a mené une bonne émission. Est-ce que je peux lancer un porky ? Ah oui. That's all, folks. Et oui, l'émission touche à sa fin. On a parlé de Light Drag Action. On a parlé de Space Kittens avec son auteur Jean-Mathias Xavier. On a parlé de Bleu de Chauffe chez Glénat de Lionel Chouin. On n'a pas parlé de tant de trucs que ça ce soir, mais on a bien parlé, ce qui était très cool. On va pas tarder à se quitter. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'oubliez pas que vous allez pouvoir retrouver l'émission directement sur le site de Radio G. Dans les minutes qui suivent, vous allez pouvoir récupérer également le live directement sur YouTube. N'hésitez pas à commenter, ça nous fait toujours plaisir. Il nous reste deux émissions avant la fin de la saison avec deux invités, mais je vous teaserai ça sans doute sur les réseaux sociaux. En attendant, merci à Jean-Mathias d'avoir été présent. Hop, ton micro était Ah, il veut pas le micro. Vas-y.
Merci beaucoup.
Voilà. Décidément, c'est les joies du direct. Merci à mes camarades de m'avoir accompagné ce soir. Merci Flo, merci Bruno.
Merci Seb.
Merci.
Et puis, on se retrouve dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas de lire. Il paraît que ça rend intelligent.
Eh ben, vous avez de la chance, parce que moi, j'ai appris à lire. Ben, je souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous! Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Trompez vite! Il est parfaitement ici!
Justement! Les touristes de mort!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi? Mais c'est fini! Rentre chez toi!